Monsieur Truchon, bonjour.
Bonjour.
Je pense avoir compris lors de notre dernier entretien que bien que vous vous attardez à la recension de Matthieu pour l'ensemble des explications sur les béatitudes qu'on va voir plus tard, vous tenez quand même à nous donner une idée de la perspective, de l'éclairage qui est propre à Luc. Est-ce que c'est bien le cas?
Oui, absolument. Et voir les béatitudes de Matthieu sans voir d'abord celles de Luc, ce serait une faute presque. Parce que le texte de Luc situe d'une façon plus fondamentale dans l'aspect historique l'histoire des béatitudes. Et c'est justement l'étude de l'exégète Jacques Dupont qui a fait une trouée de nouveautés en resituant les béatitudes d'abord au niveau de Luc, c'est-à-dire dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'humanité. Alors c'est pour ça, et pour couper court, je vais situer tout de suite dans l'ensemble les deux recensions, dont l'une c'est Luc 6, 20 à 26, et l'autre c'est Matthieu 5, 3 à 12. Et déjà, je vais parler de chacun des deux sens de ces deux recensions. Je vais, pour ce faire, partir de la transfiguration de Jésus, et peut-être que la référence ne paraît pas évidente au premier abord. À la transfiguration de Jésus, qu'est-ce qui arrive? Jésus part et monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et là, il est transfiguré devant eux. Et là apparaît 8 personnes, c'est-à-dire 8 personnes entrent en ligne d'action et de dialogue. Le premier, c'est le Père qui dit « C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon pouvoir, écoutez-le. » Ensuite, il y a Moïse et Élie. Pourquoi ces deux personnages-là viennent s'entretenir avec Jésus? Ce n'est pas pour rien, c'est toute la reprise de l'histoire de l'Ancien Testament et de la révélation chrétienne et de la révélation de Dieu à l'humanité. Alors, de quoi s'agit-il? Moïse, en fait, est le prototype de la libération sociale du peuple juif. Le peuple juif est en esclavage en Égypte et il est intégré dans un système où il est absolument esclave. Et il a besoin d'une libération, il crie à son Dieu et il veut être libéré. Alors, pour couper court, parce que ce serait déjà toute une histoire d'étudier Moïse, qu'est-ce que fait Moïse? C'est que par la foi qu'il a en son Dieu, il aide à son peuple d'avoir assez de foi pour sortir de l'esclavage. Et c'est la libération sociale. Pourquoi ça? Parce que Moïse, justement, représente aussi et préfigurait la libération sociale du système du monde dans lesquels les gens sont souvent aliénés, pour ne pas dire toujours aliénés jusqu'à maintenant au moins.
Oui,
alors,
ça.
Ils sont aliénés au niveau social. Et la libération sociale est nécessaire. Qu'est-ce que c'est que cette libération sociale? Justement, quand nous verrons plus tard, quand nous lirons les Béatitudes selon Luc, nous verrons qu'il s'agit de libération sociale. C'est-à-dire de libérer les gens d'un système défectueux. Il faut corriger socialement le système, les systèmes dans lesquels les gens vivent. Et justement, Luc va nous dire comment faire.
Mais je suis sûr, M. Truchon, que vous avez écrit quelque part que les béatitudes ne comportent pas un message social qui est essentiellement religieux, qui n'est pas social.
Bien, si j'ai dit ça, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, mais je ne me rappelle pas d'avoir dit ça, mais je ne peux pas exclure le social de la spiritualité chrétienne et de l'engagement chrétien et de l'histoire d'Israël. Alors, c'est évident que toute l'histoire d'Israël est une histoire politique et nationale et mondiale. Exode 19, 4 à 7, les Juifs représentent la révélation au monde entier et ils sont un peuple témoin. Donc, exclure le social du religieux, c'est complètement perdre les pédales de la spiritualité chrétienne. Revenons à la transfiguration. Alors, qu'est-ce qui se produit à la transfiguration? Moïse jase avec Jésus. Et quel est le contenu de ce dialogue? C'est la reprise de Luc 24, c'est-à-dire les disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire que Jésus, lui, va réussir la libération du monde. Alors que Moïse n'en était que le prototype, la preuve aussi, c'est qu'elle n'a pas duré longtemps au niveau historique, c'est que Jésus va faire la libération du monde. Libération qui va se faire, comme on le va voir tout à l'heure, à divers niveaux. Et lui, il va la réussir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fils de Dieu, parce qu'il est le Sauveur, parce qu'il est le Messie, parce que c'est Dieu lui-même en action dans notre propre histoire sociale.
Il va la réussir dans l'eschatologie, il va la réussir voilà, dans son monde
voilà,
à lui.
Voilà, c'est, là, vous avez lâché le mot, c'est que justement, cette libération va être d'abord eschatologique. C'est-à-dire qu'un jour, le monde sera réussi. Grâce à qui? À Jésus-Christ et grâce à nous. Alors, autrement dit, le sens des béatitudes de Luc, c'est la certitude que Dieu ne peut tolérer indéfiniment l'esclavage des hommes, ne peut tolérer indéfiniment que des hommes en oppriment d'autres, qu'ils les pressurent, qu'ils les empêchent de se développer. Alors, il nous demande de travailler à la libération du monde. Et ça, ça va être un bonheur. Et de croire que Dieu va nous accompagner dans cette libération, qu'il va être la source de cette libération à laquelle il veut nous engager pour que nous y collaborions, ça, pour les pauvres de Yahvé, c'est-à-dire les Anawim, c'est-à-dire les bienheureux de Dieu, c'est une certitude. Alors, la foi est d'abord à dimension eschatologique, c'est-à-dire la certitude d'une réussite finale.
Mais il la promet aussi, si je comprends bien, dans le contexte social actuel de son monde.
C'est pour tous les temps. Il demande aux hommes de tous les temps de respecter l'homme et de travailler à sa libération. Et il va y avoir pour ça 5 moyens fondamentaux que nous allons voir tout à l'heure.
Mais vraisemblablement, elle n'est pas complète, elle est en cheminement.
Elle est en devenir, seulement que plus les hommes, et aujourd'hui on semble le voir un peu plus d'une certaine manière, plus les hommes vivent, plus l'histoire du monde se développe, plus cette libération devient comme une nécessité vue par tout le monde.
Vous expliquez que Luc situe le discours non pas dans la montagne, comme le fait Matthieu, mais dans la plaine, c'est-à-dire dans un contexte de foule pour universaliser son auditoire. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le texte de Luc serait-il pas mieux adapté à nous, puisqu'il est plus universel, quoi?
Plus adapté à nous. Je le trouve très adapté. Quand nous le verrons tout à l'heure, nous allons voir qu'il est très adapté.
Alors, pourquoi est-ce qu'on dit de Luc que son texte est plus universel?
Qui dit universel ne veut pas dire moins adapté à moi.
Ce que je veux dire, c'est qu'on comprend par déduction que le texte de Matthieu était plus local, plus, il s'adressait davantage à la culture juive et à leurs valeurs.
Je crois qu'il y a une distinction encore plus fondamentale au niveau des deux recensions. Je pense que le texte de Matthieu se situe surtout au niveau des attitudes de la personne, individuellement. Tandis que le texte de Luc se situe surtout au niveau communautaire, social et mondial. Alors, il y a comme deux aspects dans notre personne. Il y a un aspect personnel, intérieur, dont on va parler tout à l'heure, ou à une autre émission avec Matthieu, et il y a un aspect social. Au fond, les béatitudes de Matthieu, c'est la béatitude du travail. C'est que le travail est le premier moyen de nous construire un bonheur. Tandis que dans les béatitudes de Matthieu, dans la recension de Matthieu, ça sera d'abord intérieur. Il est évident que la dimension intérieure est plus importante que la dimension extérieure. Mais il ne faut jamais séparer les deux dimensions de la vérité, c'est-à-dire l'aspect extérieur, engagement, travail, incarnation, et l'aspect intérieur qui est l'amour, la charité, la relation à Dieu. C'est pour ça que il y avait Élie aussi qui jasait avec Jésus.
Pour revenir à la Transfiguration.
Élie, lui, représentait la libération intérieure, c'est-à-dire la relation à Dieu, la relation à soi-même et la relation d'amour envers les autres personnes. Parce que même si on a un Cadillac blanc, ça ne veut pas dire qu'on est heureux. Autrement dit, la dimension extérieure, ou matérielle, ou psychologique, ou même de réussite sociale, c'est pas ça qui va surtout faire le bonheur. Ce qui va faire surtout le bonheur, c'est l'amour véritable. Parce que même en ayant moins de biens, ça ne veut pas dire qu'on est très malheureux. Hein? Mais par contre, il nous faut des biens. Alors, il y a la dimension extérieure et sociale qui est nécessaire et la dimension intérieure. On revient un peu à l'histoire de la foi et des œuvres. C'est que les deux sont complètement corrélatifs, indissociables. Sinon, c'est la maladie de la foi. C'est une foi qui n'est pas en santé.
D'accord. Vous parlez plusieurs reprises de la didaché de Matthieu et de celle de Luc. Avant de parler, de passer aux différences, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce que c'est exactement la didaché.
Oh, ça, c'est un mot grec qui veut simplement dire enseignement. C'est l'aspect enseignement d'un texte. Alors, évidemment que les évangélistes sont comme des maîtres, quoique c'est Jésus qui est le véritable maître. Alors ça, c'est l'aspect didascalie, c'est l'aspect enseignement, c'est-à-dire l'aspect de la parole de Dieu qui s'adresse à l'intelligence.
L'aspect pédagogique.
L'aspect pédagogique aussi, oui.
Bon, alors vous dites que la pédagogie de Luc vise des gens qui ont tout à apprendre de la prière et qui ont besoin d'y être encouragés. Nous pouvons y voir un enseignement pour chrétiens convertis du paganisme. Fin de la citation. La prière, c'est donc un élément nouveau pour les non-juifs. Est-ce que les païens n'avaient pas déjà leur propre concept de la prière?
Oui, mais là, on rentrerait dans des détails qui pourraient nous faire perdre un peu la ligne fondamentale. Parce que qu'est-ce que c'est que la prière d'abord? D'après l'Ancien Testament, la prière, dans l'Ancien Testament, la prière, c'est le fait de se tenir devant l'Éternel, qui est présent à nous en toutes circonstances. Ça s'appelle la Kohen. Ça, c'est la prière juive, se tenir devant Dieu, devant l'Éternel, qui est là inséré dans notre histoire. Dans le Nouveau Testament, c'est se tenir devant Jésus-Christ qui a déjà réalisé notre histoire, donc qui a déjà réussi, mais à laquelle nous devons participer pour y faire notre collaboration. Alors ça, c'est la prière dans le Nouveau Testament, et en particulier l'Eucharistie. Mais là, je trouve qu'on s'éloigne de la transfiguration.
D'accord, j'allais vous dire, je pense que je vous ai interrompu dans votre cheminement sur la transfiguration.
Alors, si on reprend le sens premier des béatitudes, selon Luc, c'est des gens qui crient vers Dieu, qui crient pour détruire l'injustice, qui veulent retrouver la prospérité, soit qu'ils l'aient déjà eu, soit qu'ils l'aient perdu, soit qu'ils l'aient jamais eu, qui veulent vivre dignement leur vie d'homme. Alors, c'est la dimension sociale du salut et de la vie humaine. Tandis que les béatitudes, selon Matthieu, c'est représenté par Élie, qui est prophète, le prototype des prophètes, qui lui travaillait à rétablir, à purifier ou à instaurer la véritable relation à Dieu. Donc, il s'agit de l'intériorité. Mais la vérité chez l'homme, c'est que la vérité, c'est une cohérence toujours plus grande entre l'extériorité et l'intériorité. Au fond, les choses matérielles sont déjà un langage de Dieu. Déjà, elles incitent à une intériorité. Mais il reste qu'on ne comprend pas tout le temps. Alors, l'intériorité, c'est la compréhension de toute l'extériorité et son sens. Autrement dit, le bonheur est d'abord fondamentalement intérieur. Mais le moyen d'y parvenir, c'est d'abord de suivre les béatitudes de Luc, et j'espère que là, on va commencer à les étudier plus spécialement.
Bon, j'allais justement vous demander, au sujet de Luc, je sais qu'il emploie cinq termes qui définissent la qualité de pauvre, qui est la notion principale dans les béatitudes, et qui correspondent au message qu'il veut transmettre. Est-ce que vous aimeriez nous expliquer un peu les fameux cinq termes?
Oui, évidemment, si on va au centre d'achat Laurier ou à un autre centre d'achat, si on demande aux gens s'il y a un bonheur à être pauvre, ils vont partir à rire parce que la pauvreté, c'est de la misère. En français, on a juste un mot pour dire ça. Pauvre. Pauvre, ça veut dire misère. En langue juive ou en hébreu, ils ont un vocabulaire très élaboré. Et nous allons le voir, ce vocabulaire, pour nous démêler. Alors, c'est pas d'être dans la misère qui rend heureux. C'est évident. Alors, c'est quoi qui peut rendre heureux? Voyons d'abord les quatre misères progressives de l'homme.
Ce que vous dites, c'est que quand on a traduit par le terme « pauvre », on a traduit par des termes qui, au départ, avaient souvent été différents les uns des autres.
Qui est ambigu. Parce qu'en français, le mot, faudrait dire les pauvres, entre guillemets, ou les pauvres de Yahvé, quand on traduit. Parce que le pauvre, pour nous autres, en français, veut dire misère. Il ne peut pas avoir de bonheur dans la misère. Ce n'est pas la misère qui peut procurer le bonheur. Puis il ne faut pas rester dans la misère pour être heureux. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Alors, bienheureux les pauvres, tout de suite, il faut comprendre quelle sorte de pauvre que c'est ça. Alors, là, nous allons commencer. D'abord, le premier sens, le premier mot qui exprime le mot « pauvre » en hébreu, c'est le mot « rachim ». On les met justement au pluriel pour indiquer qu'il s'agit de classes sociales. Il y a des classes sociales en ce monde qui sont pauvres, c'est-à-dire dans la misère, et qui ne peuvent pas rester là-dedans. Il faut en sortir, il faut les aider à s'en sortir, puis il faut qu'ils s'en sortent. Mais pour s'en sortir, ça prend la foi aussi pour penser qu'on peut réussir. Alors, s'agit-il des rachim? Il s'agit de ceux qui manquent de biens économiques. Il faut sortir les gens de du besoin de manque économique. Il faut produire des biens économiques, de consommation, des biens de production. Il faut produire des biens, il faut inventer des machines, il faut inventer ce qu'il faut pour arrêter de crever de faim puis avoir tout ce qu'il faut pour vivre.
Alors donc, ce sont les pauvres au sens où on l'entend couramment aujourd'hui.
Oui, mais dans le sens qu'il faut sortir les gens de ça. C'est là qu'il y a un bonheur, c'est de travailler à détruire la misère. Il y a un premier bonheur dans le monde pour les gens de Dieu, ou les gens croyants, ou les gens en santé, comme on pourrait simplement dire. Il y a un bonheur à détruire la misère économique, à travailler à détruire la misère économique dans le monde, à travailler à ça, soit en inventant des moyens de production, soit en produisant des biens de consommation. Mais il faut travailler à ça, c'est le premier chemin du bonheur. C'est le premier sens des béatitudes selon Luc, c'est d'avoir confiance qu'on peut réussir à faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu est juste et il ne peut tolérer indéfiniment cette injustice. Et la plus belle preuve de ça, on l'a dans le Magnificat de la Vierge. Quand la Vierge, on lui a dit qu'elle concevrait le Jésus de l'Esprit-Saint, elle ne sortait pas de la quatrième année ou de la troisième année de l'école, elle demandait un signe. Elle avait les pieds à terre, la Vierge, elle n'était pas partie. Elle demandait un signe. Le signe, c'était qu'Élisabeth était déjà enceinte. Elle était voir et en fait, elle était enceinte. Puis là, Élisabeth l'a salué Jean-Baptiste, c'est-à-dire que Jean-Baptiste a bougé dans le sein de l'Élisabeth pour reconnaître le Sauveur dans Marie. Et dans Marie, il y avait Jésus. Et qu'est-ce que Marie a fait? Elle a chanté un Magnificat, qui est au fond un résumé de toute la Bible. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce Magnificat-là? Il y a en particulier ce verset suivant. Dieu va libérer les pauvres, c'est-à-dire les misérables. Libérer les misérables, ça veut dire les empêcher d'être exploités, d'être dominés, d'être aliénés. Dieu ne peut pas tolérer ça. Et il a dit, elle le dit dans le Magnificat aussi, dans le même verset, « Il détrônera les puissants de leur trône. » C'est quoi ça veut dire ça? Que tous ceux qui sont au pouvoir vont le perdre? Tous ceux qui ne travaillent pas pour la promotion de l'homme s'en vont vers un échec fatal.
Et pourquoi? Pour la promotion de la collectivité.
Pour la promotion de chaque personne, au niveau collectif, au niveau social. Alors, c'est quoi qui arrive? C'est que les riches, les mauvais riches, ceux qui exploitent les gens, qui empêchent les gens de se développer pour s'enrichir, ceux qui exploitent les gens sont comme assis sur les pauvres. Les pauvres, c'est pas les chaises, ça. Quand Jésus va arriver, Jésus va rétablir le jugement, c'est-à-dire qu'il travaille à rétablir les choses en remettant les gens à leur place, dans leur dignité, et en décollant ceux qui sont assis dessus. Alors, c'est le jugement. Le jugement de Dieu, c'est un acte libérateur qui détruit le malheur et la misère. Mais il nous demande de le faire. Alors, le premier sens, c'est rachim. Le deuxième sens, c'est une misère plus profonde encore. Donc, toujours, je dis toujours que les pauvres de Yahvé, ce sont les gens qui croient que Dieu va les aider à faire ça. Et qui sont sûrs de lui.
Qui vont les aider à
libérer le monde de ces malheurs que nous allons énumérer. Donc, le premier, c'est le manque de biens économiques. Pas avoir les vêtements, avoir froid, brûler quand tu fais trop chaud, n'importe quoi. Deuxième, c'est les dalim. Les dalim, ça, ce sont les sciences de la santé. Ceux qui travaillent à guérir le corps. Parce que même si on est bien riche matériellement, si on est malade puis on crève, on a encore besoin. Alors, ça, ce sont tous les gens qui sont engagés dans les soins de la santé, qui est un mal plus profond que le manque de biens économiques. Quoique le manque de biens économiques, évidemment, conduit à une mauvaise santé, il reste que travailler à guérir les gens dans leur corps, c'est une voie de bonheur. Ceux qui font ça et qui le font bien sont sur le chemin du salut.
Mais pourquoi est-ce qu'on les appelle pauvres?
C'est le vocabulaire hébreu. Pourquoi est-ce que c'est un synonyme?
C'est
parce qu'on a traduit le seul mot de toutes ces cinq-là, on les a traduits par pauvres. Mais vous voyez comme c'est en français, notre vocabulaire se trouve être pauvre. Alors, il faut l'enrichir. Donc, deuxième misère, encore plus profonde que la première, ce sont les besoins du corps malade qu'il faut guérir. Donc, tous ceux qui travaillent à inventer des vaccins, aujourd'hui on parle du sida, tout ça, imaginez, il faut travailler à guérir les gens. Que ce soit leur faute ou pas, il faut les travailler à guérir. Quand un médecin reçoit un malade qui a une jambe cassée, il ne demande pas s'il est catholique, il travaille à le guérir.
Alors, on est encore très loin des pauvres en esprit de Matthieu.
Ben, on est très loin. On n'est pas dans Matthieu.
Non, c'est ça.
Mais les deux, c'était deux bons amis, hein, au niveau du sens. Il ne faut pas les opposer. Mais il y a quand même une caractéristique différente dans chacun. Donc, dans le sens de Luc, c'est toujours d'avoir foi en Dieu qui travaille avec nous dans notre travail pour libérer les hommes. Parce que le travail est important pour nous construire. Prenez le petit enfant qui est à maternelle, qui fait un petit bonhomme, puis qui est bien fait. Il se valorise en faisant ça. Autrement dit, il n'y a pas rien que fait le petit bonhomme, il s'est fait lui-même. Alors, le travail nous bâtit, puis on se bâtit dans le travail, mais il faut que le travail aussi soit constructif, et soit, non pas destructeur.
Soit valorisant.
Soit valorisé, aussi. Soit valorisant, puis qui rapporte. Alors, ça, c'est tout l'aspect effectif des vertus selon Luc. Alors, donc, les dalim, les besoins du corps, les misères du corps à guérir. Troisième niveau, plus profond encore, ébionim. Ça, c'est l'orientation de nos consciences. Ça, c'est grave. Travailler à détruire l'ignorance. Travailler à l'alphabétisation. Travailler à détruire les erreurs de religion. J'espère, aujourd'hui, on voit d'une façon tragique qu'il faut arrêter les guerres de religion. Ce sont les plus meurtrières. Alors, travailler à travailler dans le même sens et travailler à s'enrichir mutuellement dans nos éducations et dans nos instructions. Et alors, ce sont les sciences de l'éducation. Ici, les bionimes, ceux qui travaillent à l'éducation, les mères de famille d'abord et le reste. Parce que, au fond, prenez les biens matériels. On avait à produire des biens matériels. Mais au fond, il y en a beaucoup de biens matériels. C'est que des fois, ils sont tous dans les mains du même. Alors, pour travailler à détruire les déviations, les désorientations de la nature d'abord qu'on peut lui donner, ensuite dans notre travail. Voyez-vous que les ébionimes, c'est une tâche encore plus importante que les dalim, autrement dit, travailler pour la santé. Oui. C'est de travailler, quasiment à être sensé, à vivre en homme, les vraies valeurs.
Alors, abolir la discrimination, l'ignorance.
Tout ça. Abolir l'ignorance, la discrimination, travailler à une éducation saine, travailler à la destruction de ce qui nous divise au niveau éducationnel, travailler ensemble à la tolérance et à l'enrichissement dans nos cultures réciproques, parce que c'est certain que la richesse qui s'en vient, c'est nos cultures. Alors, au lieu de les opposer, travailler à s'instruire les unes par les autres.
À les intégrer.
À les intégrer, et c'est fantastique. Et les moyens de communication aujourd'hui nous obligent à ça. On n'a plus le choix. Seulement, des fois, on est tout mêlé dans tout ça. Alors, les ébionimes, donc, travailler à une saine éducation des gens, à trouver les faux fondements d'une religion, à en voir, parce que toute religion déshumanisante est fausse, la véritable religion, ou les véritables religions, ce sont celles qui produisent un homme véritable. Alors, le signe d'une doctrine qui est vraie, c'est quand elle est humanitaire. D'abord juste, ensuite humanitaire. Quand elle construit un homme humain. Et plus on est divinisé, plus on est humain. Dieu est la plus personne, et la plus parfaitement humaine, parce que c'est lui qui avait l'homme. Il est plus que l'homme, en tout cas. On en arrive à un quatrième niveau de misère qui est le top, ou si vous voulez le fond. C'est le désespoir. C'est de ne plus avoir c'est de dire on s'en sortira jamais. Ça, c'est le désespoir. Alors, élaborer des moyens de reprendre confiance en soi, c'est la tâche la plus capitale dans la Bible au niveau des béatitudes de Luc. Avoir confiance qu'on peut redonner confiance aux gens pour qu'ils se prennent en main et qu'ils s'en sortent. Même les drogués, hier encore, j'écoutais une émission de France, et les médecins sont capables de nous sortir de la drogue. Les thérapeutes, les médecins, ils sont capables. Ils sont en train de trouver toutes sortes de produits qui peuvent aider. Alors, on peut sortir du mal, on peut sortir de la misère. Les béatitudes de Luc, ils nous disent, détruisons la misère pour qu'on vive comme du monde. Mais ayons confiance en faisant ça.
J'ai une petite question ici. Pourquoi est-ce que si on parle de désespoir, est-ce qu'on ne l'a pas traduit par désespoir au lieu de pauvreté?
Ah, ça, voyez-vous, là, moi, je ne fais pas de procès. Là, j'étudie la Bible, puis j'essaye d'en apprendre tous les jours.
Donc, il y a toujours de la place pour le questionnement et
Oui.
d'accord. Et le suivant, donc.
Alors, le cinquième, c'est le résultat et la solution aux quatre premiers. C'est les anawim. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs parlent des pauvres de Yahvé. Albert Jolin parlait des pauvres de Yahvé. Des auteurs d'exégèse parlent des anawim. Ils gardent le terme hébreu. Bon, enfin, on pourra peut-être, nous autres, dans l'émission, trouver un autre nom. Mais c'est quoi les anawim? Ce sont des gens qui ne se fient qu'en Dieu pour qu'on sorte du mal. Ils sont sûrs de Dieu, puis ils se disent, on va y arriver. Donc, ayant mis leur confiance en Dieu, ils ont une confiance terrible en eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs de Dieu. Alors, ils travaillent au bien-être du monde. Qu'on pense au fondateur de Médecins sans frontières, de Kouchner, à des hommes qui inventent des patentes ou des inventions pour détruire le mal, des associations internationales de la santé, comme Bernard Kouchner, des pauvres de Yahvé, des pauvres, des miséreux qui manquent de logement, comme l'abbé Pierre, des gens éponymes, des gens qui s'en vont promouvoir l'instruction, comme les missionnaires, des gens qui travaillent à guérir le désespoir des gens qu'on nomme des psychologues, des thérapeutes. Tout ça, là, c'est des missions, des vocations, des ministères évangéliques.
Monsieur Truchon, je vous remercie. Je pense qu'on manque de temps pour tout de suite, mais la prochaine fois, si vous voulez bien, on continuera avec le message de Luc. Je pense que c'est pas terminé encore.